Alors on va essayer de faire ça en trois temps. Au début, je vais vous raconter un peu comment j'ai rencontré Thérèse. C'est toujours une rencontre. Vous avez tous ici une histoire d'une rencontre avec Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Dans un deuxième temps, j'essaierai de voir avec vous ce qu'elle dit par rapport à l'Écriture. Et puis, dans un troisième temps, si on le peut, on prendra quelques exemples. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Lire l'Évangile de Jean avec Thérèse de Lisieux ». Voilà, donc c'est un commentaire de l'Évangile avec à chaque fois quelques-uns, les plus importants, des textes où Thérèse parle de ce chapitre-là de l'Évangile. Parce que je me suis aperçu avec une immense surprise que Thérèse a commenté tout l'Évangile de Saint Jean. Alors d'abord, comment j'ai rencontré Thérèse ? On m'a fait lire à l'âge de 14 ans, on m'a fait lire l'histoire d'une âme. Vous pensez, pour un scout un peu aventurier, garçon culotte courte et griffé dans les broussailles, que cette lecture à l'eau de rose m'a dégoûté pour longtemps de Thérèse de Lisieux. Voilà. Donc, d'ailleurs avec ça, de pas mal de tout ce qui pouvait s'appeler spiritualité. Hein. Histoire de petites fleurs, de pétales de rose. Bon, très peu pour moi. Plus de 20 ans plus tard, chaque fois qu'on parlait de Thérèse, je parlais d'autre chose. Hein. Plus de 20 ans plus tard, j'étais à l'époque recteur du séminaire de Saint-Pétersbourg en Russie. Je vous raconte pas ma vie, mais j'ai été donc au Kazakhstan, en Russie, et puis ensuite en Géorgie, et je continue à faire pas mal de cours là-bas. Donc j'étais préfet du séminaire catholique. C'était vers le mois de mai 1998. Hein. Je reçois un coup de téléphone d'une amie qui s'appelle Sœur Tamara, de la communauté des Béatitudes à l'époque, et qui me dit au téléphone « Je fais venir les reliques de Thérèse en Russie et au Kazakhstan. On a besoin d'un responsable ecclésiastique, donc j'ai mis ton nom. » Réponse. Tu sais, Thérèse, c'est pas ma tasse de thé. Et j'ai même dit cette phrase, pas très belle. Hein, j'ai dit, toi et tes ossements, tu peux te les garder. Voilà, texto. Hein. Mais vous comprenez que pour un bibliste, Thérèse, c'était pas très sérieux. Je pensais, à l'époque. Mais comme ce que femme veut, Dieu le veut. Je ne sais pas laquelle des deux, si c'était Tamara ou Thérèse, je pense que c'était plutôt Thérèse. Eh bien, en juillet de la même année, alors que je faisais un camp de jeunes, toujours boy scout culotte courte, même si j'avais plus l'âge, coup de téléphone du recteur de Lisieux, le père Zambelli, qui me dit « C'est vous le responsable ecclésiastique pour le voyage des reliques de Thérèse en Russie ?» Il faut fixer un rendez-vous pour qu'on se voit avec Sœur Tamara, moi-même et ma secrétaire, qu'on se voit à Lisieux là, pendant le mois de juillet. Réponse, j'avais la réponse toute faite. Ah, c'est absolument impossible, je suis directeur de camp, je ne peux pas quitter la Provence, là où j'étais, je ne peux absolument pas partir. Donc, pas question. Puis, voilà. Réponse du père Zambelli, si vous ne pouvez pas venir, c'est nous qui allons venir chez vous. Donc, avec sa secrétaire, il a pris l'avion, il a loué une voiture et il a débarqué dans mon camp d'enfant, entre un grand jeu et une veillée, quoi. Et puis, il devait venir la fameuse Sœur Tamara. Et à midi, vers midi, c'était un 16 juillet, comme par hasard, hein, Notre-Dame du Mont-Carmel, téléphone de Sœur Tamara, « Je suis coincé à Toulouse, ma voiture est en panne. » Donc, Père Dumoulin, c'est vous qui organisez les choses. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec sur les bras le voyage des reliques de Thérèse pendant 3 mois quand même, en Russie et au Kazakhstan. Et à la fin de ce fameux rendez-vous, le père Zambelli me dit, le 15 août, nous avons les évêques de Russie, que je connaissais bien comme recteur, qui viennent à Lisieux. Le soir, il y a une conférence de presse avec les médias. On a besoin de vous parce qu'il faut quelqu'un qui parle russe, qui connaisse le sujet et qui puisse répondre. Réponse déjà toute prête. Le 15 août, pas question. C'est moi qui m'occupe de la procession ici du 15 août avec la Sainte Vierge et tout. Il n'est pas question que je monte à Lisieux. Réponse. C'est à quelle heure votre procession ? La procession, elle est à 10h. À 11h, il y a la messe. Après, il y a le repas. Très bien. Il y a un avion à 14h30 à Marseille. Ensuite, un TGV. Il y aura une voiture qui vous attendra. Alors, je suis arrivé à Lisieux le 15 août, forcément. Hein, et à peine étais-je arrivé qu'on nous emmenait visiter ce qui ne se visite jamais, c'est-à-dire l'intérieur du Carmel, la chambre de Thérèse, le petit cloître, l'allée des marronniers, etc., tout ce qu'elle décrit dans l'histoire d'une âme. Bon, entre-temps, j'avais relu quand même pas mal les textes de Thérèse. Et puis donc, il y a eu la fameuse conférence de presse. Bon. Et ensuite, les reliques de Thérèse donc, sont arrivées en Russie. Et alors, ce qui m'a converti progressivement à Thérèse, ça a été d'abord de rencontrer Guy Gaucher, Monseigneur Guy Gaucher, et de lire l'histoire d'une vie qui permet de beaucoup mieux comprendre l'histoire d'une âme, hein, de Guy, de lier une très grande amitié avec Guy Gaucher. Puis après ça, de retrouver le père Jacques Philippe, qui est venu prêcher aux séminaristes sur Thérèse et qui m'a permis de mieux comprendre la petite voix. Et puis comme on m'a demandé d'assurer des prédications à travers toute la Russie sur Thérèse en accompagnant les reliques, il a bien fallu que je m'y mette. Alors on est devenus très amis avec Thérèse. Très amis parce que, petit à petit, j'ai pu découvrir ce qu'il y avait derrière les histoires de petites fleurs. Et puis aussi, j'ai vu agir Thérèse. Alors si je commençais à vous raconter ça, on y serait encore demain ici. Hein. Quelques jours avant qu'arrivent les reliques de Thérèse, coup de téléphone donc au rectorat du séminaire. Coup de téléphone, bon, ici, en gros, dit sous d'autres mots, le KGB, quoi. On a appris que vous avez un personnage important qui vient de France. On voudrait savoir par qui cette personne est accompagnée. Et je dis, mais je ne comprends pas, là. Non, on n'attend personne. Si, si, il y a quelqu'un qui vient, c'est une certaine Thérèse. Alors j'essaye désespérément d'expliquer au type du KGB que la Thérèse en question, elle est morte depuis plus d'un siècle et que ce qui vient, c'est justement des ossements, des os. Enfin, je lui explique que c'est des reliques, il ne comprenait pas le mot relique. Alors il fallait que je lui explique, même avec le mot en russe, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc je lui explique que c'est des os. Bon, le monsieur raccroche, un quart d'heure après, recoup de téléphone. Ici, le département des services vétérinaires. On a appris que vous importiez des os. De quoi est morte cette personne ? Si je leur avais dit qu'elle était morte de tuberculose, là, j'étais fichu, les os, ils ne seraient jamais arrivés. Hein, voilà. Et tout a été de cet acabit. Hein. Je vous en raconte juste quelques-unes. Hein. On n'arrivait pas à dédouaner le reliquaire de Thérèse. Hein. C'est-à-dire qu'à la douane, ça ne passait pas. Et ça faisait plusieurs heures qu'on se battait en ayant fait intervenir qui en pouvait. À ce moment-là, arrivent 3 femmes. Donc la première s'appelait... Alors, bien entendu, l'ambassade de France, pas question, c'est des trucs religieux, ça ne concerne pas. On a essayé de leur faire comprendre que c'était un bien culturel français, mais ça ne passait pas. Première femme qui était là, elle s'appelait Thérèse. C'était l'attaché culturel français qui était très catholique et qui, malgré tout, était venu. Deuxième femme, elle s'appelait Teresa. C'était la femme de l'ambassadeur du Guatemala. Troisième femme, elle s'appelait Teresa. C'était la femme de l'ambassadeur du Brésil. Alors, ils nous ont beaucoup aidés. Et puis, au bout d'un moment, on commençait à désespérer. On a vu la neige qui commençait à tomber. Alors, pour qui connaît les écrits de Thérèse, quand on a vu tomber la neige, on a dit, on est sûr que c'est gagné. Thérèse, elle aimait tellement la neige. Hein, voilà. Pour elle, c'était vraiment un signe de la grâce de Dieu. Et donc, on a pu sortir les reliques. Mais il était très tard dans la nuit. On s'est dit, on ne peut pas les emmener à Saint-Louis-des-Français. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a essayé de les amener à la cathédrale de l'Immaculée Conception. Le gardien qui était là, il avait deux énormes molosses. Il nous a dit, n'ayez pas peur, laissez-la. Tout ce que vous voulez, mes chiens le garderont. Et nous, on s'est dit, les ossements de Thérèse avec des chiens. Donc, elle a passé sa première nuit à Moscou, hors du territoire russe, c'est-à-dire dans l'ambassade du Guatemala, puisqu'il y avait la femme de l'ambassadeur, qui ensuite nous a suivis avec sa voiture, avec les drapeaux du Guatemala, dans tous les déplacements. Donc pour aller de Moscou à Saint-Pétersbourg, à Rostov, etc., on avait les drapeaux, la voiture à drapeaux qui précédait Thérèse. Bon, il y a eu des épisodes épiques, hein, comme le fait que ce soit les cadets de l'armée rouge qui portent les reliques de Thérèse pour entrer dans la cathédrale, dans l'église de Saint-Louis-des-Français, ou bien le fait que dans une des églises qui nous avait été rendue, mais qui était coupée en 4 étages, hein, comme beaucoup d'églises en Russie, on n'avait que l'étage d'en haut, c'est-à-dire sous les voûtes gothiques, et l'étage d'en bas. Et dans l'étage d'en bas, la salle qu'on avait à disposition s'appelait la salle Lénine, avec les fauteuils rouges. Thérèse n'a jamais voulu rentrer dans la salle Lénine, ni par les portes, ni par les fenêtres, ni par rien, elle n'a pu rentrer. Donc on a été obligé de la laisser dans le couloir, on disait la messe dans la salle Lénine, et les gens faisaient une procession. C'était très chouette, parce qu'on faisait la procession pour aller voir Thérèse, hein. Et avec cette histoire d'essayer de faire rentrer Thérèse, il y avait une femme qui était là, qui était d'origine africaine, mais qui vivait en Russie avec son mari et son enfant, et elle était quasiment mourante. Elle avait une maladie très grave, sans doute auto-immune, et elle pouvait plus rester, quoi. Elle n'en pouvait plus, c'était trop long. Donc on l'a mise dans une autre pièce, on l'a allongée, et on lui a porté un petit reliquaire de Thérèse qu'elle a serré contre son cœur. Ça faisait plus de 3 ans que les médecins cherchaient qu'est-ce qu'elle avait comme maladie et comment la soigner. Elle n'a pas été guérie de suite. Mais le lendemain matin, on découvrait quelle maladie elle avait et quel traitement elle pouvait suivre. Cette femme, ensuite, je l'ai revue pendant plusieurs années, elle portait toujours sur elle, dans son soutien-gorge, une photo de Thérèse. C'était une protestante, baptiste, avec son mari et son fils. Ils se sont tous les trois convertis au catholicisme et elle ne jurait plus que par Thérèse. Je raconte un autre épisode. Le premier soir où les reliques sont arrivées dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg, moi je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas grand monde, parce que les orthodoxes, c'est une sainte catholique. La cathédrale était bondée, bondée. Avec Sylvie Buisset, nous avons chanté les chants de Thérèse. Elle chantait en français et moi je lui répondais en russe. Et avec les séminaristes qui faisaient l'orchestre. Et j'ai eu l'idée, à la fin de la veillée de prière, de dire aux gens, s'il y en a qui veulent se confesser, je serai à disposition, s'il le faut, toute la nuit, mais je suis là à vous attendre. Qu'est-ce que j'avais pas dit ? Vers passé minuit, je me disais, mais demain matin, je me lève à 6 heures, moi, avec les séminaristes. Hein. Passé minuit, j'avais encore la queue au confessionnal. Alors j'ai dit aux gens, revenez demain, j'appellerai des confrères. On a confessé à 4 pendant toute la semaine. Et on avait dit, arrêt à minuit. À minuit, on arrête les confessions pour aller dormir. Voilà. Et ça, ça a été tous les jours que le bon Dieu a fait, tous les jours de la semaine. Hein, on a confessé comme ça. vous raconte pas toutes les grâces, hein, de guérison, de conversion, de vocation, de confirmation dans la vocation. Pour mes séminaristes, ça a été un moment très très fort. Hein. Beaucoup d'entre eux sont devenus très très dévots à Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis une dernière petite anecdote. Hein. Il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, dans une émission de télé, la fameuse sœur Tamara d'ailleurs, s'est trouvée avec des gens, des représentants d'autres confessions. Elle, en tant que témoin aussi des voyages des reliques de Thérèse, et il y avait des musulmans, des bouddhistes, etc. Et l'imam lui dit, oui, vos histoires de spiritualité, tous ces phénomènes de la vie spirituelle, c'était autrefois, c'était au Moyen-Âge. Aujourd'hui, ça n'existe plus, tous ces trucs-là. Et Tamara, qui cherche désespérément un épisode mystique avec Thérèse, lui dit, mais bien sûr que si. À Saint-Pétersbourg, le père du Moulin, devant les reliques de Thérèse, il était 20 centimètres au-dessus du prie-Dieu. Tout le monde l'a vu. En fait, c'est parce que les séminaristes m'ont vu tellement en prière devant Thérèse, tellement, tellement émerveillé de la présence des reliques de Thérèse, qu'on disait, le père Pierre, il était 20 centimètres au-dessus du prie-Dieu. C'était une manière de dire que j'étais... Voilà, mais j'ai jamais été au-dessus du prie-Dieu, vous inquiétez pas. Hein. C'est mauvais pour ma cause de béatification, mais voilà. Alors voilà, la rencontre avec Thérèse. Hein. Et je ne pensais pas à l'époque, même si j'aime beaucoup Thérèse, je lis et je relis ses écrits, en particulier les petites pièces de théâtre qui sont un bijou, hein. Et puis tous les chants, bien sûr, toutes les poésies mises en musique. Et donc je n'aurais jamais pensé que ça aurait un jour une utilité sur le plan biblique. Jusqu'à ce que, au moment de redonner un commentaire à publier aux Béatitudes, m'est revenu dans la tête un des chants ou poèmes de Thérèse, hein, c'est « Au soir d'amour ». Vous vous rappelez ?« Au soir d'amour, vivant sans parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer... » Voilà, bon. Et donc, je me suis dit, quand même, il faudrait que je mette ça quand je commente les discours de la scène. Et puis, j'ai été reprendre un peu. Et puis, je me suis dit, mais il faudrait que je mette ça pour la Samaritaine. Et puis, je me suis dit, mais il faudrait que je mette ça pour Marie-Madeleine. Puis, il faudrait que je mette ça pour commenter le J'ai soif. Et quand j'ai eu... constater qu'en fait tout Saint Jean était commenté chez Thérèse, je me suis dit, il faut que je change le bouquin. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté, donc, à la fin de chacun des commentaires exégétiques, disons, des chapitres, j'ai mis les textes de Thérèse qui disent ce que j'ai expliqué en tant qu'exégète, relu par la sensibilité de Thérèse. Alors que vous comprenez que quand quelqu'un comme Hans Urs von Balthasar, qui aime beaucoup Thérèse, mais qui dit qu'elle a commenté l'écriture uniquement avec sa sensibilité et pas du tout de façon exégétique, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que cette sensibilité de Thérèse, docteur de l'Église, lui permet de commenter bien mieux qu'un exégète, bien mieux. Et pourquoi ? Alors, encore quand même quelques petits épisodes. Oui, tout ce que je vous dis par rapport à Sœur Tamara, c'est publié dans un livre qui s'appelle « Comment Thérèse visita la Russie et le Kazakhstan ». C'est aux éditions du Carmel. Voilà. Elle me cite souvent, sans dire c'est moi, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent de notes que je lui ai données. En fait, ces reliques, donc on fait 3 mois, donc Russie, Kazakhstan, elles sont arrivées un peu en retard, on a eu 2 jours de retard pour des questions d'avion, parce qu'elles devaient repartir en arrivant, elles devaient repartir directement vers Buenos Aires, en Argentine, où les attendait un évêque qui venait juste d'être nommé, et qui s'appelait Jorge Bergoglio, devenu depuis le pape François. Voilà. Lui aussi, amoureux de Thérèse, soit dit en passant. On n'avait pas pu joindre la Géorgie à ce périple. On aurait dû l'emmener aussi en Géorgie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, l'année suivante, j'ai offert à la Géorgie, enfin à la cathédrale de Tbilissi qui venait d'être restaurée et qui allait être consacrée, j'ai offert une grande statue de Thérèse. Et puis j'ai fait parvenir des reliques de Thérèse pour que les gens puissent aussi vénérer Thérèse. Je ne pensais pas que Thérèse allait me préparer le chemin. En envoyant la statue de Thérèse, je me suis envoyé moi-même sans le savoir. C'est-à-dire que la statue, elle trône dans la cathédrale. Les gens pensent que c'est la Sainte Vierge parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc ils voient Saint Joseph d'un côté, Thérèse de l'autre. Donc ils se disent, ben, c'est Jésus, c'est Joseph et Marie. Mais en fait, non, c'est Joseph et Thérèse. Et donc, bref, après avoir envoyé la statue, ça c'était en l'an 2000, en 2003, j'ai moi-même débarqué en Géorgie pour m'occuper, pour aider l'évêque à s'occuper de ce diocèse. J'ai consacré le groupe de séminaristes à Thérèse et elle en a pris soin. Et puis, en fait, je ne savais pas que ça préparait autre chose. C'est-à-dire que l'an dernier, le pape François, la boucle est bouclée, le pape François est venu en Géorgie pour le 1er octobre. Il a donc célébré la messe dans le stade, la messe de Sainte Thérèse. Voilà, la boucle était bouclée. Et comme j'étais responsable des médias, il y avait une soixantaine de journalistes, eh bien, j'ai suivi tout ça de près. Et voilà quelques-uns des mots que le pape a dit pendant son homélie dans le stade Messri de Tbilissi. Petite parenthèse quand même, vous savez que Thérèse est la protectrice de la mission catholique dans l'ancienne URSS, d'où Géorgie, Kazakhstan, Russie, c'est Thérèse qui protège. Voilà. Alors voici quelques lignes de son homélie. Il commence en disant, début et la fin, « Parmi les nombreux trésors de ce splendide pays, ressort la grande valeur des femmes. » Bonjour mesdames. « Comme l'écrivait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ici Thérèse, elles aiment le bon Dieu en bien plus grand nombre que les hommes. » Il suffit de regarder. Voilà. Et il finit son discours en disant, enfin son homélie, « Je voudrais résumer ses pensées avec quelques paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Elle nous indique sa petite voie vers Dieu, l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Parce que Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. » C'est extrait du manuscrit B. « Malheureusement, cependant, écrivait-elle alors, mais c'est vrai aussi aujourd'hui, dit le pape, Dieu trouve peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent toute la tendresse de son amour infini. La jeune sainte et docteur de l'Église, au contraire, était experte dans la science de l'amour. Et elle nous enseigne que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. » Vous avez entendu ? Je vous le répète parce que c'est utile au quotidien. La charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer, enregistrés. Elle nous rappelle aussi que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur, manuscrit saint. Demandons aujourd'hui tous ensemble la grâce d'un cœur simple, à l'exemple de Thérèse, un cœur simple qui croit et vit dans la force humble de l'amour. Demandons de vivre avec une confiance sereine et totale en la miséricorde de Dieu. Voilà, ça vous dit quand même que le pape François, avec Thérèse, outre la citation que vous avez à l'extérieur, bien, mais on va voir mieux tout à l'heure. Alors, effectivement, pour commenter l'Écriture, le pape pouvait s'appuyer sur Thérèse, parce que tout l'enseignement de la patronne des missions est comme imbibé de la parole de Dieu, en parfaite correspondance avec ce qu'écrit François encore dans la joie de l'Évangile. Il dit, donc Thérèse est la patronne des missions, faites le pont. Vous prenez les œuvres complètes de Thérèse, vous allez à l'index biblique et vous voyez le nombre de pages. Vous prenez n'importe quel texte de Thérèse et vous regardez dans les marges et vous voyez des tas d'indications. Et encore, elles n'y sont pas toutes. En tant que bibliste, j'en repère plein qui n'ont pas été notées dedans. Donc en fait, c'est de la parole de Dieu en permanence, Thérèse. Alors, le pape dit donc, toute l'évangélisation est fondée sur la parole de Dieu. Méditée, vécue, célébrée, témoignée. La Sainte Écriture est la source de toute évangélisation. Par conséquent, il faut se former continuellement à l'écoute de la parole de Dieu. L'Église n'évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. Il est indispensable que la parole de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale. La parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l'Eucharistie, alimente et fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d'un authentique témoignage évangélique dans la vie quotidienne. La parole proclamée, vivante et efficace, prépare à la réception du sacrement, et dans le sacrement, cette parole atteint son efficacité maximale. L'étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les croyants. L'évangélisation demande une familiarité avec la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à tâtons dans l'obscurité. Nous ne devons pas non plus attendre que Dieu nous adresse la parole, parce que réellement Dieu a parlé. Et il n'est plus le grand inconnu, mais il s'est montré lui-même. Accueillons le sublime trésor de la parole révélée. C'est ce que dit le pape François. Donc, évangélisation, parole de Dieu, inséparable. Maintenant, on va passer à Thérèse. Avec plus d'un siècle d'avance, Thérèse a vécu exactement ce que dit le pape François. Simple laïque, puis obscure consacrée cachée dans son Carmel de Lisieux, elle a fait de la parole de Dieu sa nourriture. Les écrits qu'elle a laissés en sont la preuve, non seulement l'histoire d'une âme, mais les lettres, les pièces de théâtre, les poésies, sont un véritable tissu de citations bibliques, tirées en particulier des évangiles, des lettres de Paul et du prophète Isaïe, mais aussi des psaumes et du Cantique des Cantiques, surtout les deux premiers chapitres. Il suffit de consulter donc l'index pour le voir et de s'apercevoir qu'elle n'a guère eu accès à l'écriture que par la liturgie. Donc, comme beaucoup de gens, elle n'entendait la parole que dans la liturgie. Il s'agit donc d'une lecture priée, d'une méditation. Elle n'avait pas accès, comme nous, à une Bible en langue courante, car la Bible était encore à l'index à l'époque. Et pour pouvoir avoir une Bible, pour pouvoir la toucher, il fallait qu'elle demande la permission à la supérieure. Dans la famille Guérin, il y en avait une, mais elle était sur l'étagère en haut parce qu'il ne fallait pas que les enfants touchent la parole. Hein, c'était dangereux. Elle devait donc se contenter de textes qu'elle arrachait à la liturgie ou bien qu'elle pouvait consulter. Alors, on sait qu'elle avait sur elle, en permanence, un évangile et les psaumes parce que les sœurs avaient reçu un petit manuel du chrétien dans lequel il y avait aussi les évangiles et les psaumes, et quelques psaumes. Et puis, elle possédait aussi un recueil de textes qui était recopié par sa sœur Céline. Céline avait recopié. Donc, pendant la liturgie, elle copiait les textes. Voilà. Et donc, elle aimait ce cahier au point que Céline, devenue ensuite sœur Geneviève, témoigne. Donc, c'est dans les témoignages qui ont été laissés. Elle se servait avec enthousiasme de ce petit carnet manuscrit et ne pouvait s'en séparer, si bien que sœur Marie de l'Eucharistie commença à le transcrire pour elle. Parce que Céline, elle voulait qu'on lui rende. Donc, voilà. Et au père Roulant, elle parle du livre des évangiles qui ne me quitte jamais. Alors voyons ce que ça donne. Elle commence l'histoire d'une âme par ces mots, on va les relire. Avant de prendre la plume, ouvrant le Saint-Évangile, je suis tombée sur ces mots. Et elle commence par une citation. Donc, ça veut dire que l'histoire d'une âme naît, jaillit de l'Évangile. Voilà, elle le dit elle-même, c'est les premiers mots. Je vous retrouve le début du texte, hein, ce que je viens de vous lire, parce que là j'ai coupé un petit peu. Et donc, c'est dans le manuscrit A. Voilà. Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie. Ouvrant ensuite le Saint-Évangile, mes yeux sont tombés sur ces mots. Jésus étant monté sur la montagne, il appela à lui ce qu'il lui plut, et ils vinrent à lui. Et elle commence la première page en commentant qui est-ce qui a plu à Jésus et pourquoi ils lui ont plu. Voilà, et c'est le début de l'histoire d'une âme. Donc encore une fois, c'est une véritable exégèse de la parole, exégèse spirituelle. Elle a noté ce qui lui plut. Enfin, souvent on traduit ce qu'il voulait. Et elle se dit, mais pourquoi il a voulu cela et pas d'autre ? Et voilà tout le début du récit de sa vie. C'est en partant de ça qu'elle va raconter sa vie. En quoi j'ai pu plaire? Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Question qu'il faudrait se poser. Et à laquelle elle répond. Donc Thérèse ouvrait donc l'Évangile au hasard pour se laisser appeler par la parole. Elle recevait la parole afin d'y puiser l'inspiration, elle écoutait la parole, elle la recevait, elle ne la possédait pas. Il y avait un catéchisme, un moment, qui s'appelait, moi ça m'horripilait, « À nous la parole ». Non, la parole, on ne la possède pas. Ce n'est pas à nous la parole. C'est nous qui sommes à la parole. C'est différent. Il ne faut pas inverser les rôles. Elle écrit dans sa dernière prière à Marie. Vous savez, où je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, on l'a chanté tout à l'heure. Hein. Elle écrit cette phrase superbe. Il faudrait lire tout le détail, mais je vous lis que l'Évangile m'apprend et mon cœur me révèle. C'est génial ici. C'est génial. L'Évangile, quand vous ouvrez l'Évangile, il vous apprend des choses. Et c'est le cœur qui révèle. Un peu dans le sens, vous savez, de autrefois on révélait les pellicules. Hein, il fallait un révélateur. Bon, on allait dans une chambre noire. Eh bien, le cœur, c'est la chambre noire où se révèle la parole qu'on nous a donnée. Si vous voulez, la parole, c'est un peu comme la pellicule, mais quand elle est dans l'appareil photo, quoi. Il faut ensuite un révélateur pour que la parole de Dieu puisse devenir nous. Alors, je vous redis cette phrase superbe. L'Évangile m'apprend et mon cœur me révèle. Voilà. C'est dans le passage par le cœur que la parole apprise, se révèle. Révèle toute sa beauté, toutes ses potentialités, tout, un peu comme un vitrail qui serait la nuit, qui est tout noir, et puis le soleil se lève et révèle le vitrail. Et voilà, c'est ça. Hein? Toujours dans son dernier poème à Marie, elle réalise une véritable synthèse de mariologie biblique. Elle suit tous les événements de la vie de Marie dans l'Évangile. Et elle annonce, de façon très étrange en faisant ça, le chapitre 8 de la Constitution Lumen Gentium de Vatican II, qui est la partie qui est sur la Vierge Marie. Thérèse écrit en effet, « En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. » Il y en a qui connaissent par cœur la suite, hein, parce qu'on le chante. « Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. » En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder. Non pas Marie dans la gloire, Marie fabuleuse, Marie tout ce que vous voulez, que la dévotion a transformée. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile. Et elle prend tous les épisodes. Dans chaque strophe, il y a un épisode sur Marie. Donc toute le concile dira, vous allez faire le pont, hein, donc le concile, Vatican II, un siècle plus tard, la lecture de la Sainte Écriture doit faire mettre dans une juste lumière le rôle et les privilèges de la Bienheureuse Vierge, lesquels sont toujours orientés vers le Christ. Donc Vatican II dira, pour comprendre Marie, il faut partir de l'Écriture Sainte. Exactement ce que fait Thérèse. Et ce qui ne se faisait pas à l'époque. Pas du tout. Donc toute la mariologie de Thérèse trouve sa base dans l'Écriture sainte. Encore une fois, c'est ce que dit le Concile. Les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament et la tradition vénérable mettent dans une lumière de plus en plus grande le rôle de la mère du Sauveur dans l'économie du salut et le propose pour ainsi dire à notre contemplation. C'est Thérèse. Vous cherchez à l'époque de Thérèse une théologie biblique de la mariologie, vous n'en trouvez pas. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui ait eu l'idée géniale de Thérèse de prendre les évangiles et de lire dedans qui est Marie, en utilisant y compris les passages qu'on n'a jamais cités dans des conciles, c'est-à-dire les passages où Jésus renvoie balader sa mère, alors que Thérèse les inclut. La correspondance est parfaite. C'est les mêmes épisodes que le concile, c'est dans le même ordre. En se basant sur la parole pour approfondir sa relation à Dieu, Thérèse ne fait qu'imiter Marie elle-même. Comme dit encore le Concile, c'est en donnant à la parole de Dieu son consentement que Marie, fille d'Adam, devint mère de Jésus. Et Thérèse chante à plusieurs reprises cette disponibilité de Marie à la parole, cette écoute. Alors, par exemple, que je t'aime écoutant les bergers et les mages et gardant avec soin toutes choses en ton cœur. Ô Vierge Immaculée des mères la plus tendre, en écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas, mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre que notre âme devient sa famille ici-bas. Je vous redis, c'est trop beau. Ô Vierge Immaculée des mères la plus tendre, en écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas quand il vient de te rembarrer. Mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre que notre âme devient sa famille ici-bas. Avec cette ultime poésie de Thérèse sur Marie, écrite en mai 1897, donc très peu de temps avant sa mort, on atteint comme un sommet dans la relation de Thérèse avec la parole de Dieu. C'est aussi à cette époque, au soir de sa vie, donc, le 9 mai 1897, donc au même moment, hein, qu'elle ait confié au père Rouland le fondement évangélique de sa voie spirituelle. Elle écrit « Ma voie est toute de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Parfois, lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers 1000 entraves, environnée d'une foule d'illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite. Je ferme le savant livre qui me casse la tête et me dessèche le cœur. Et je prends l'Écriture sainte. Alors tout me semble lumineux. Une seule parole découvre à mon âme des horizons infinis. La perfection me semble facile. Je vois bien qu'il suffit de reconnaître son néant et de s'abandonner comme un enfant dans les bras du bon Dieu. » Voilà. Hein? Donc, je laisse les beaux livres et je prends l'Écriture sainte. Tout me semble lumineux. Quelques jours plus tard, le 15 mai 97, en fait, je suis en train de vous faire faire le mois de mai de Thérèse. Hein? Elle avait ce thème-là dans son cœur à ce moment-là. Quelques jours plus tard, donc le 15 mai 97, elle confesse encore « Pour moi, je ne trouve plus rien dans les livres, si ce n'est dans l'Évangile. Ce livre-là me suffit. J'écoute avec délice cette parole de Dieu. » Dans une des dernières paroles, qui est datée du 4 août, sœur Agnès de Jésus recueille encore une perle de la petite sœur, célèbre. Si j'avais été prêtre, j'aurais étudié l'hébreu et le grec afin de pouvoir lire la parole de Dieu telle qu'il daigna l'exprimer dans le langage humain. Vous comprenez que pour un bibliste, c'est du gâteau. Hein? Alors du coup, j'ai trouvé une autre version de la même parole. Donc ça, c'est dans les dernières paroles. Mais dans « Conseils et souvenirs », qui recueille aussi les dernières paroles, à la date du 4 août aussi, hein, j'ai une autre version des derniers entretiens. « Même pour la Sainte Écriture, n'est-ce pas triste de voir toutes les différences de traduction ?» Vous vous rendez compte, pour un bibliste, c'est génial, c'est la base de ma vocation à travailler la Bible, c'est d'entendre des différences de traduction. N'est-ce pas triste de voir toutes les différences de traduction ? Si j'avais été prêtre, j'aurais appris l'hébreu et le grec, et je ne me serais pas contenté du latin. Comme cela, j'aurais connu le vrai texte dicté par l'Esprit-Saint. Fabuleux, hein ? Voilà une vraie bibliste. À une époque où on ne pouvait pas. Donc à une époque où peu de gens connaissaient l'Écriture sainte, Thérèse a appris par cœur des pages entières de la Bible. C'est pour ça qu'elle le cite en abondance. Elle savait par cœur les textes, souvent de mémoire. Cependant, la jeune carmélite ne se contente pas de citer les textes, elle se les approprie pour en vivre. Donc une véritable herméneutique. Hein. Elle trouve dans l'Écriture une réponse à ses questions, mais aussi la source de nouvelles questions. Voilà, ce n'est pas du tout ce que dit Balthazar. C'est-à-dire que c'est pas simplement pour chercher des réponses à ces questions qu'elle va piocher dans l'Écriture. C'est le contraire aussi. L'Écriture lui pose question. Et ça, c'est vraiment la lectio divina. Hein? Afin d'approfondir sa vie, pour la diriger selon l'Évangile. Cherchant à comprendre les Écritures avec son cœur et son intelligence, elle nourrit sa relation avec Dieu, une relation nouvelle, vivante. Et ses découvertes, elle les partage avec Céline. Heureusement qu'on a les lettres. Céline qui est à la fois sa confidente, sa sœur et sa novice. Et puis aussi avec nous, finalement, grâce au petit cahier qu'elle est en train d'écrire avec son crayon, les petits cahiers qui feront l'histoire d'une âme. Les écrits de Thérèse sont en effet pétris d'évangiles et principalement de l'évangile de Jean. Elle écrit, dans le manuscrit A, « C'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient pendant mes oraisons, En lui, je trouve tout ce qui est nécessaire à ma pauvre petite âme. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Toujours. Ça fait plus de 30 ans que j'enseigne la Bible. J'y découvre toujours des sens cachés et mystérieux. Des textes que je crois savoir par cœur et tout d'un coup, bon sang, mais jamais, j'avais jamais compris ça. Puisque Jésus est remonté au ciel, manuscrit C, puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile. Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Voilà. Et en disant ça, elle est en train de citer, en fait, le Cantique des Cantiques. Hein? Voilà. Je cours à l'odeur de tes parfums. Bon, je vous dis, c'est imbibé d'écriture simple, même quand elle ne le dit pas. En fait, c'est ça qu'elle est en train de dire. Le Cantique des Cantiques dit « Je cours à l'odeur de tes parfums ». Où est-ce qu'ils sont les parfums de Jésus? Elle dit « Ben, les parfums de Jésus, c'est dans l'Évangile. C'est un recueil de parfums. Suivons. Voilà, courons. » Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est aussi en train de citer Saint Benoît dans sa règle. Bon. Thérèse n'a pas voulu garder pour elle ce trésor qu'elle a tiré quotidiennement de l'Évangile. Elle nous le donne avec ardeur et générosité en le citant à foison dans tous ses textes. Elle dit ainsi à Jésus, elle parle à Jésus, dans le manuscrit C. C'est peut-être de la témérité, mais non. Depuis longtemps, ne m'avez-vous pas permis d'être audacieuse avec vous, Jésus? Vous m'avez dit, tout ce qui est à moi est à toi. Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi, et je puis m'en servir pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père Céleste. Et elle cite la moitié du chapitre 17 de Saint Jean, à la suite. Voilà. En se les appropriant les paroles de Jésus lors de sa dernière prière au Père, la prière sacerdotale. Elle dit, la prière sacerdotale, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Pour Thérèse, comme pour Saint Jérôme, la parole de Dieu, Saint Jérôme, patron des biblistes, hein, la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même. Dans une de ses lettres à Céline, du 7 juillet 1894, elle s'interroge sur le sens des paroles de Jésus en Jean 14, 23. Là encore, une démarche d'exégète, une démarche scientifique. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. Elle affirme, garder la parole de Jésus, voilà l'unique condition de notre bonheur, la preuve de notre amour pour lui. Puis elle demande, mais qu'est-ce donc cette parole qu'il faut garder? Il me semble que la parole de Jésus, c'est Jésus lui-même. Lui, Jésus, il est le Verbe, la parole de Dieu. Alors voilà une des clé de Thérèse, la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est pas un bouquin. C'est donc le visage du Verbe incarné qui se dessine dans l'Écriture. C'est la sainte face qui se dévoile à nos cœurs. On comprend alors la soif de méditer la parole qui habite Thérèse. Elle avait dit, je l'ai lu déjà, « Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint-Évangile » Aussitôt, je respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir. Et elle conclut ce texte en disant, surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son amoureuse audace. J'y reviendrai sur Madeleine. En fin de compte, sans avoir appris les langues bibliques, la petite Thérèse est sans doute l'un des plus grands exégètes des temps modernes. Saint Jean-Paul II en donne la preuve. Lorsqu'il cite Thérèse dans « Novo Millennio Ineunte », la lettre apostolique du 6 janvier 2001 qui donne le programme pour toute l'Église pour le troisième millénaire. Superbe lettre hein, dans laquelle il donne le programme pour le troisième millénaire. Il arrive à un texte, à commenter un passage qui est un des plus difficiles de l'Écriture. C'est le cri de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le point de départ de Luther. Hein? Bon. Pour le protestantisme. Et donc, Jean-Paul II répond à Luther, en fait, et il répond avec Thérèse. Alors, je vous lis le texte, c'est un petit peu long, mais vous allez voir, c'est superbe. « Chers frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré. Et la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Au moment où il s'identifie à notre péché, abandonné par son Père, il s'abandonne. Abandonné, il s'abandonne entre les mains de son Père. Ses yeux restent fixés sur son Père. C'est bien en raison de la connaissance et de l'expérience que lui seul a de Dieu que même en ce moment de ténèbres, il voit de manière limpide la gravité du péché et qu'il souffre pour lui. Lui seul, qui voit son Père et en jouit pleinement, mesure en plénitude ce que signifie résister par le péché à l'amour du Père. Avant d'être une souffrance pour son corps, et à un degré beaucoup plus élevé, sa passion est une souffrance atroce pour son âme. La tradition théologique n'a pas manqué de se demander comment Jésus pouvait vivre en même temps l'union profonde avec son Père, qui est par nature source de joie et de béatitude, et l'agonie dans le cri de l'abandon. La présence simultanée de ces deux éléments, apparemment inconciliables, est en réalité enracinée dans la profondeur insondable de l'union hypostatique, c'est-à-dire de l'union de vrai Dieu, vrai homme. Grâce à ce mystère, conjointement à la recherche théologique, une aide sérieuse peut nous venir du grand patrimoine qu'est la théologie vécue des saints. La théologie vécue des saints. Ceci nous offre des indications précieuses qui permettent d'accueillir plus facilement l'intuition de la foi, et cela en fonction des lumières particulières que certains d'entre eux ont reçues de l'Esprit-Saint, ou même à travers l'expérience qu'ils ont faite de ces états terribles d'épreuve que la tradition mystique appelle la nuit obscure. Bien souvent, les saints ont vécu quelque chose de semblable à l'expérience de Jésus en croix. Dans un mélange paradoxal de béatitude et de douleur. Dans le dialogue de la divine providence, Dieu le Père montre à Catherine de Sienne que dans les âmes saintes peuvent être présentes à la fois la joie et la souffrance. Il cite Catherine de Sienne, « Et l'âme est bienheureuse et souffrante, souffrante pour les péchés du prochain, bienheureuse par l'union et l'affection de la charité qu'elle a reçue en elle. Cela imite l'agneau immaculé, mon Fils unique, lequel sur la croix était bienheureux et souffrant. » De la même façon, Thérèse de Lisieux vit son agonie en communion avec celle de Jésus, éprouvant précisément en elle le paradoxe de Jésus bienheureux et angoissé. Cite Thérèse, notre Seigneur, dans le jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité. Et pourtant, son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère. Mais je vous assure que j'en comprends quelque chose parce que je l'éprouve moi-même. C'est sublime ici. Enfin, je veux dire, on est au plus haut niveau de la mystique. Hein. C'est dans les derniers entretiens. C'est un témoignage lumineux, dit Saint Jean-Paul II. Du reste, le récit même des évangélistes assure le fondement de cette perception de l'Église. De la conscience du Christ, quand il rappelle que Jésus, même dans l'abîme de la douleur, meurt en implorant le pardon pour ses bourreaux, et en adressant à son Père son abandon filial jusqu'à l'extrême, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Donc Thérèse est allée jusqu'au fondement même, au plus profond du sens des textes bibliques, au point que Saint Jean-Paul II la cite comme le moyen de comprendre ce qui se passe dans l'âme du Christ sur la croix au moment de l'abandon total. C'est vraiment la plus belle réponse possible à Luther. Luther, lui, parle à ce moment-là de Dieu contre Dieu. Et Thérèse dit, c'est pas Dieu contre Dieu. C'est les deux ensemble. C'est la souffrance et la joie. Et là, on comprend que la souffrance, elle n'est pas un malheur. Elle est un mal, mais elle n'est pas un malheur. Elle est quelque chose qui peut coexister pleinement avec la plus grande joie. Et c'est ce qui se passe sur la croix. Et elle le dit parce qu'elle fait le pont entre son expérience et la parole. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est le pont entre ce que nous expérimentons et la parole de Dieu. Ça veut dire que la parole éclaire ce que je vis. La parole devient ma vie. Alors je voudrais prendre, pour finir, Ouffant. Excuse-moi, c'est le provençal qui sort Ouffant. Je voudrais prendre au moins un exemple, sinon plusieurs. Le fameux « j'ai soif » de Jésus sur la croix, en Jean 19, 28. Vous savez que c'est devenu le mot d'ordre des missionnaires de la charité. Vous allez dans n'importe quelle maison des sœurs de Mère Teresa, missionnaires de la charité, vous trouvez une croix dans la chapelle, même la plus pauvre des chapelles, et il y a marqué en dessous, dans la langue du pays, « j'ai soif ». « I thirst ». Jajdo, Skouria, Osete, etc. Vous allez là-bas, vous voyez ça. Et c'est tout. Voilà, au centre, il y a la croix et il y a marqué « j'ai soif ». Mère Teresa a fait de cette parole le centre de toute sa spiritualité. C'est la soif du Christ. Ben, ça ne lui est pas tombé du ciel. Elle l'a piqué chez notre copine. Et elle le dit. Elle le dit, Mère Teresa, qu'elle l'a pris chez Thérèse. Parce que quand vous lisez les œuvres de Thérèse, et en particulier dans l'histoire d'une âme, vous le trouvez 9 fois, le « j'ai soif ». Et avec tout le sens, 9 fois, sans parler de toutes les allusions qu'il y a ailleurs. Et elle y lit trois indications. Elle l'interprète de 3 manières, le « j'ai soif » de Jésus. Elle n'est pas unilatérale. D'abord, la soif de Jésus pour notre amour. Jésus a soif de mon amour. J'ai soif de l'amour de Bernadette. J'ai soif, dit Jésus, de l'amour de Jacob. J'ai soif de l'amour d'Isabelle. J'ai soif de l'amour de Marie. J'ai soif de j'ai soif de ton amour. Alors elle se sent invitée à combler cette soif du Christ. Mais elle s'en sent incapable. Alors elle va demander à Jésus de lui fournir cet amour pour pouvoir le lui donner. C'est tout simplement génial. C'est accepter d'entrer dans le mouvement de l'amour trinitaire où le Père donne tout au Fils pour que le Fils lui rende tout. C'est ça l'Esprit Saint. Ça circule. C'est cet amour circulant. Elle l'a parfaitement compris. Elle dit, de votre bouche adorée, nous avons entendu la plainte amoureuse. Comprenant que la soif qui vous consume est une soif d'amour, nous voudrions pour vous désaltérer posséder un amour infini. Époux bien-aimé de nos âmes, si nous avions l'amour de tous les cœurs, tout cet amour serait à vous. Eh bien, donnez-nous cet amour. Et venez nous désaltérer en vos venez-vous désaltérer en vos petites épouses. Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes. Chapeau, hein? Rappelez-vous la phrase de Don Bosco, hein? D'ami animas, etc. Tolé, c'est-à-dire donne-moi des âmes et puis enlève tout le reste. Deuxième soif, la soif missionnaire d'un cœur qui désire conduire les âmes à Jésus. Juste avant le récit de la conversion de Pranzini, fameux qui devait être décapité, là, elle dit, dans le manuscrit A, « Le cri de Jésus sur la croix retentissait continuellement dans mon cœur. J'ai soif, j'ai soif. » Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré par la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Voilà la deuxième soif. Troisième soif. Thérèse, il y a aussi et surtout une réponse à sa propre soif d'amour qu'elle partage avec Jésus. Il ne s'agit donc pas seulement de donner à boire à Jésus, mais de compatir à cette soif en la partageant. Faut arriver à ce niveau-là. Hein. Toute la vie spirituelle devient ainsi désir. La vie spirituelle, chez Thérèse, c'est le désir. Un désir partagé avec le Christ. Avoir le même désir que Jésus. Une union à la passion amoureuse du Christ en croix. C'est, voilà le texte, c'est dans Rappelle-toi la poésie. Hein. Rappelle-toi de l'amoureuse plainte qui sur la croix s'échappa de ton cœur. Ah, dans le mien, Jésus, elle est empreinte, et de ta soif, je partage l'ardeur. Plus je me sens brûlé de tes divines flammes, plus je suis altéré de te donner des âmes. Que d'une soif d'amour, je brûle jour et nuit. Rappelle-toi. Ta douce voix à toute heure m'implore, tu me redis, j'ai soif d'amour. Je suis aussi ta prisonnière et je veux redire à mon tour ta tendre et divine prière. Mon bien-aimé, mon frère, j'ai soif d'amour. J'ai soif d'amour. Comble mon espérance. Augmente en moi, Seigneur, ton divin feu. J'ai soif d'amour. Bien grande est ma souffrance. Ah, je voudrais voler vers toi, mon Dieu. Ton amour est mon seul martyr. Plus je le sens brûler en moi et plus mon âme te désire, Jésus, fais que j'expire d'amour pour toi. Vous voyez, elle demande de brûler plus encore. Elle en souffre. Elle dit, mais j'en veux encore plus parce que c'est ce que toi tu vis. Et donc, en vivant ça, je vis comme toi et je vis avec toi. Voilà. Je vais arriver à la fin. On comprend qu'elle a choisi de représenter ça dans ses armoiries. Et sur l'une des 9 images qu'elle a composées. C'est une image sur laquelle il y a Marie-Madeleine au pied de la croix. Elle cite les paroles du Christ à la Samaritaine. Puis elle choisit 3 strophes de son poème « Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi ». Celle sur la Samaritaine, celle sur la soif de Jésus en croix et celle sur l'amour de Madeleine. Elle réalise donc une synthèse entre la Samaritaine, les fleuves d'eau vive jaillissant du cœur et puis Marie-Madeleine au pied du transpercé. Et c'est cette image qui avait été la base de son désir de la conversion de Pranzini. C'est-à-dire, c'est en regardant cette image avec les flots qui coulaient du côté du Christ en croix qu'elle a voulu la conversion de Pranzini. Plus tard, elle a décoré l'image et elle y a mis derrière sa poésie en disant ben « ça, c'est la Samaritaine. Ça, c'est les fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Ça, c'est Marie-Madeleine. » Voilà, elle a mis les 3 ensemble. Alors, il y aurait plein d'autres choses qu'il faudrait dire, mais en tant que femme, Thérèse a particulièrement contemplé les femmes dans l'Évangile. Je conseille mesdames d'aller jeter un coup d'œil. En plus de la Vierge Marie, donc il y a la Samaritaine, et puis il y a Marie-Madeleine. Elle était horriblement jalouse de Marie-Madeleine. Vous savez bien, toutes les femmes sont jalouses. C'est dans la nature même des femmes. Hein. Thérèse, il fallait bien qu'elle soit jalouse. Fallait qu'elle trouve quelqu'un. Donc elle a trouvé Marie-Madeleine. Parce que Jésus dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Elle dit, ben zut, moi j'ai pas grand chose à me faire pardonner parce que tu m'as toujours préservé. Et alors elle trouve ce génial subterfuge en disant, ouais, en fait tu m'aimes encore plus puisque tu m'as préservé au départ. Donc je peux t'aimer encore plus si j'en prends conscience. Donc j'ai pas besoin d'envier Madeleine. Voilà, hein, elle essaye, vraiment c'est super, vous pouvez lire ça, hein. On trouve ça dans c'est pareil dans l'histoire d'une âme. Voilà. Et puis, si vous voulez approfondir ça, ben vous essayez de regarder dans Au soir d'amour. Vous essayez de penser à toutes les références bibliques. Ou bien son cantique sur le cœur sacré de Jésus. C'est tout simplement une anticipation de l'encyclique de Pie XII qui s'appelle Aurietis Aquas. Elle a tout compris ce que c'était le cœur de Jésus, ce que signifie la dévotion au cœur de Jésus. Et puis bien sûr, je voulais citer au début, « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» C'est le dernier poème de Thérèse, hein. Elle est dans la parfaite maturité spirituelle, et c'est pour ça que c'est quasiment de la Bible mise en vers. Enfin, c'est de l'écriture mise en vers, et je vous dis, c'est l'Omen Gentium 8. Il faut arrêter, hein, mais j'aurais pu continuer longtemps avec ça, parce que c'est bon. Alors, si vous avez envie, bon, il y a le petit bouquin, hein, le petit livre sur Saint Jean. Saint Jean à la lumière de Thérèse. Sinon, allez prendre vos œuvres complètes de Thérèse, j'imagine que tout le monde les a ici, hein, et allez vous replonger avec délice, mais cette fois-ci en regardant les notes sur le côté et en vous disant, tiens, elle est encore en train de citer l'Écriture. Elle ne sait même plus qu'elle le cite. Voilà. Comme les pères de l'Église, elle baignait dedans.